Chapitre 10e. Situé à 2 lieues de Condé, dans de vastes prairies, au milieu d'un étang qui baigne ses murailles et ses 4 tours, environné d'un beau parc que continuent de grands bois, le château de Courtomer serait une agréable résidence si les voies de communication pour y arriver étaient plus commodes. Mais comme Courtomer n'est qu'un petit hameau sans commerce et sans industrie, comme le propriétaire du château n'a jamais été ni conseiller général, ni conseiller d'arrondissement, ni même maire, on a toujours retardé la construction d'une grande route qui en réalité n'aurait mené qu'au château, et l'on s'est contenté d'entretenir tant bien que mal un chemin vicinal qui, sur un parcours de 3 kilomètres, depuis l'endroit où il s'embranche sur la grande route jusqu'à l'entrée du château, traverse 4 ruisseaux à gué et dans les prairies au sol spongieux qui tremble sous le roulement des voitures lourdement chargées, présente un certain nombre de fondrières qui n'ont jamais été bien comblées. C'était ce chemin que suivait Hélène, accompagnée du père Bonjean, le dimanche où elle devait être présentée à madame la marquise de Courtomer. Ils avaient quitté la voiture du chemin de fer au carrefour de la grande route, et à pied, ils se dirigeaient vers le château. Au reste, ces 3 kilomètres étaient plutôt un plaisir qu'une fatigue, au moins pour Hélène, qui depuis longtemps n'avait pas eu le loisir de se promener à la campagne. Il faisait une belle journée de printemps, et c'était avec un sentiment de profond bien-être qu'elle marchait librement dans ce chemin bordé de chaque côté de haies plantées sur des talus dont les pentes exposées au soleil étaient fleuries comme les plates-bandes d'un jardin. Primevères, jonquilles, scies, pâquerettes et violettes épanouies au milieu d'un tapis de lierre, de mousse et de scolopendres, tandis qu'au-dessus, dans la haie même, les épines noires et les merisiers commençaient à laisser tomber leurs blancs pétales que la brise semait sur les talus. Assez mauvais pour ceux qui le parcouraient en voiture, ce chemin qui tournait à chaque instant à droite ou à gauche pour respecter les clôtures des héritages qu'il rencontrait, était charmant pour ceux qui le suivaient à pied et qui avaient des yeux pour regarder autour d'eux. À chaque pas, le paysage changeait. Aux herbages où l'on venait de lâcher les bœufs à l'engrais, qui paissaient gloutonnement l'herbe nouvelle, sans lever la tête, succédaient les courts masures plantées de pommiers aux bourgeons rougissants sous lesquels se promenaient des troupes de poules et de dindes. Puis, un petit ruisseau aux eaux limpides qui chantait sur un lit de cailloux jaunes coupait le chemin, et pour le traverser, les piétons n'avaient qu'un étroit ponceau formé de 2 troncs d'arbres couchés au-dessus des roseaux qui déjà l'affleuraient de leurs lances aiguës. C'était cette route que vous suiviez quand vous veniez donner vos leçons au jeune Guiscard, demanda Hélène. Oui, mais en voiture. C'était dommage. On voit bien que vous êtes sous l'influence du printemps et que vous ne pensez pas aux journées d'hiver, de pluie et de boue. Heureusement qu'on m'envoyait chercher en voiture. On n'est pas économe de chevaux au château de Courtomer. C'est même ce qui, pour une bonne part, a aidé le marquis à dépenser sa fortune. Enfin, aujourd'hui, cette route est tout à fait agréable, et il me semble que ce beau soleil, cette douce température, ce temps radieux, sont pour moi d'heureux présages. N'en doutez pas, mon enfant, vos mauvais jours vont prendre fin. Et si vous ne pouvez pas faire pour votre grand-mère tout ce que vous auriez voulu, vous auriez au moins la satisfaction de la mettre à l'abri du besoin et de lui épargner un travail trop pénible. C'est quelque chose, cela. Il faut savoir se contenter. Ils étaient arrivés à un endroit où les haies qui bordaient le chemin s'interrompaient et où la vue courait librement de chaque côté sur une vaste prairie coupée çà et là par des bouquets d'arbres. Dans cette prairie se promenaient ou paissaient des poulinières avec leurs poulains qui galopaient autour de leur mère. « C'est le parc du château, » dit le vieux professeur, « et ces juments sont des bêtes de pur sang dont les produits vont courir à Paris et gagnent des fortunes à leurs propriétaires. Le marquis ? Non. Monsieur de Courtomer ne peut plus entretenir une écurie de course. Il vend ses poulains à une société de gentlemen parisiens, et il n'a plus à lui que quelques chevaux pour les petites courses de province. Mais si la combinaison de la marquise réussit, c'est-à-dire si Guiscard épouse votre élève, nous reverrons le père et le fils se jeter à nouveau dans les jeux du sport, qui pour eux sont une passion. Alors la pauvre petite sera ruinée comme l'a été sa tante. Il est probable que celle-ci, éclairée par l'expérience, fera rédiger un contrat qui évitera à sa nièce le sort qu'elle a subi elle-même et conservera à ses petits-enfants la fortune des Calipets. Déjà, on apercevait la façade rouge et grise du château que dominaient les toits en poivrière de ses tours, dont les ardoises couvertes de mousse et de lichen présentaient de loin une teinte jaune. Mais ce qui, plus que le château lui-même, attirait l'attention d'Hélène, c'était les arbres du parc, qui, tous chênes, hêtres, platanes, tilleuls, sycomores, avaient une forme exactement pareille, celle du cône, et qui ressemblaient ainsi à ces arbres en bois de sapin teint en vert et frisé qu'on met dans les boîtes de jouets d'enfants. « Je vois ce qui vous étonne, » dit le vieux professeur. « C'est la forme de ces arbres. »« Justement. Comment donc sont-ils tous pareils ?»« C'est qu'ils ont été taillés par le marquis, et que cette forme est le produit de l'art, non celui de la nature. » Monsieur de Courtemer, qui est un original, s'est imaginé que la forme de tous les arbres était le cône, au moins qu'elle devait l'être. Il a formulé cette idée en loi esthétique dans une brochure qu'il vous fera lire, et que je vous engage à tâcher de comprendre. Cela s'appelle « Le canon sylvestre ». Le canon sylvestre. Le titre est original au moins. Mais en cherchant, on finit par le comprendre, surtout quand on sait que canon signifie ensemble de règles. Monsieur de Courtemer ne s'en est pas tenu à la théorie. Après avoir formulé cette règle esthétique, il l'a mise à exécution, et au moyen de la taille, il a donné aux arbres de son parc la forme conique. Ceux qui ne l'ont pas sont des sortes de repoussoirs, destinés à montrer combien elle l'aide. La nature abandonnée à elle-même. Est-ce qu'il faut admirer ces malheureux arbres ainsi martyrisés? Absolument. Voilà qui est dur quand on ne sait dire que ce qu'on pense. J'avais oublié de vous en prévenir, ce qui était vraiment trop maladroit. La fierté n'excluait nullement la bonté, fière parce qu'elle était marquise de Courtemer, mais néanmoins bonne femme. Ce fut ce qu'Hélène comprit tout de suite et ce qui la rassura. La marquise envoya chercher sa nièce, et en voyant entrer celle-ci, Hélène sentit la confiance remplacer l'inquiétude et qui jusque-là l'avait angoissée. Que serait-ce cet élève qu'elle ne connaissait pas, une bonne ou une mauvaise nature, un caractère facile ou intraitable, question décisive pour elle. C'était une enfant à l'air timide et doux, avec quelque chose de mélancolique dans ses yeux bleus qui inspirait tout de suite la sympathie, blonde comme sa tante, pâle, mais toute mignonne et même un peu chétive. Dans sa robe de laine noire et sa ruche de crêpe qui lui tenait le cou raide, elle avait une attitude dolente et un regard tout plein de tendresse contenue qui ne demandait évidemment qu'à s'épancher. Comment Hélène n'eût-elle pas été attirée vers cet enfant qui, elle aussi, pleurait son père? Instinctivement, elle sentit qu'elle s'attacherait à elle et qu'elle l'aimerait comme une petite sœur, comme une fille. « C'est excellent, monsieur Bonjean m'a parlé de vous de telle sorte que je n'ai point d'examen à vous faire subir, » dit la marquise. Il vous a expliqué quelles étaient nos conditions. Elle s'inclina. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire tout franchement que vous me plaisez beaucoup, ce qui s'appelle beaucoup, et que si ma nièce et moi ne vous effrayons pas. Oh, madame la marquise, il faut que nous nous convenions réciproquement, n'est-ce pas? Eh bien, puisque nous ne vous effrayons pas, cette affaire entendue. Nous commencerons demain. Cela dit, la marquise voulut montrer elle-même à Hélène l'appartement qui lui était destiné. Il était au premier étage, et il se composait, pour elle, d'une belle chambre confortablement meublée, et pour la salle de travail avec son élève, d'une pièce ronde située dans une des tours et dont les trois fenêtres avaient une vue étendue sur l'étang et sur le parc. « Je crois que vous serez bien, » dit la marquise d'un air qui signifiait « Vous savez qu'on ne peut pas être mieux. » Ce fut précisément ce qu'Hélène répondit, ce qui parut faire grand plaisir à madame de Courtemer. Tout en parcourant le château, Hélène se demandait si on ne la présenterait pas au marquis, qui lui aussi devait avoir voix dans le choix de l'institutrice de sa nièce, mais il n'en fut rien. Ce fut seulement au moment de monter dans le break que la marquise avait fait atteler pour les reconduire à Condé, qu'elle parla de son mari et de son fils. Ils étaient tous les deux à Paris pour le concours hippique et l'ouverture des courses de printemps. Il ne rentrerait pas à Courtemer avant une quinzaine de jours. Cela n'avait pas grande importance pour Hélène. Ce ne serait ni au marquis ni à Guiscard qu'elle aurait affaire. Quand il reviendrait à Courtemer, il était à espérer qu'elle aurait assez bien employé ses 15 jours pour s'être solidement établie dans l'esprit de la tante et dans le cœur de la nièce.